Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Le syndrome du sauveur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça arrive? Et comment se sortir de cette position? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast.
Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast. C'est un sujet que vous m'avez pas mal demandé, le syndrome du sauveur. J'aurais pas forcément pensé en parler un jour parce que moi-même, je me suis jamais trop postée dans cette posture-là, en fait, tout simplement. Mais j'ai connu pas mal de personnes autour de moi qui l'ont vécu, qui se sont mises dans cette position-là, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant comme sujet. En plus de ça, c'est un sujet que j'ai abordé pendant notamment mon cursus en analyse transactionnelle, donc tout ce qui concerne les relations, etc. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en fait le syndrome du sauveur? C'est pas plus compliqué que l'identité qu'on se donne du fait de se dire « je dois sauver les autres, je suis faite pour sauver les autres, je dois absolument sauver les autres et je dois sauver tout le monde, il faut que je sauve tout le monde et surtout je veux sauver tout le monde ». Donc quand je dis les autres, ça peut être plusieurs personnes, mais ça peut être aussi une personne, par exemple la personne avec qui on est en couple, etc. Donc c'est vraiment le genre de personne qui se met par exemple en couple avec la ferme intention de sauver l'autre de ses problèmes, de vouloir le guérir de ses problèmes, de son passé, etc. L'intention de vouloir sauver quelqu'un, d'apporter la solution à quelqu'un, de toujours vouloir sauver les autres de leurs problèmes, de leur misère, des difficultés, etc. Et en plus de ça, quelque chose qu'on constate quand même très souvent, c'est que ces personnes-là, au final, n'attirent à eux que des personnes qui ont toujours des soucis, qui ont toujours des problèmes. Très souvent des drama queens, très souvent des personnes un peu torturées, un peu compliquées, etc. Donc d'ores et déjà, vous pouvez déjà vous poser la question et vous dire quelles sont les personnes que vous attirez autour de vous? Quels sont les amis que vous attirez? Quels sont les partenaires dans vos relations que vous avez attirés, que vous attirez? Est-ce que c'est toujours des personnes qui sont torturées, qui ont des difficultés par rapport à leur passé, qui ont des problématiques avec qui c'est compliqué ou qui ont besoin d'être aidées? Et si c'est le cas, je peux vous assurer que ces personnes ne viennent pas à vous simplement par un beau hasard, un beau miracle, absolument pas. C'est simplement que vous, inconsciemment ou consciemment, peu importe la manière dont vous l'avez décidé, vous avez décidé de vous poster en position de sauveur. C'est-à-dire que vous avez décidé que vous serez la personne qui va les aider à guérir, qui va les sauver, qui va leur faire changer de vision du monde, qui va faire en sorte qu'elle sera heureuse, et vous vous êtes positionné en tant que sauveur. Donc inconsciemment déjà, vous avez décidé d'attirer ce genre de personnes à vous, puisque c'est comme ça que vous vibrez, et inconsciemment, c'est vous aussi qui allez diriger votre attention plus vers ça. Donc il y a plein de raisons à ça, et justement moi je vais vous en exposer quelques-unes pendant ce podcast-là. Après c'est un sujet dont on pourrait débattre pendant des heures et très longtemps, mais c'est vrai que de par mon expérience dans mon coaching Rise, donc les personnes que je coach en fait pendant 3 mois, dans du développement personnel, on fait vraiment une analyse très profonde du passé, des blessures, de l'enfant intérieur, etc. Il y a des personnes qui ont souvent ce syndrome-là un peu quand elles arrivent dans le coaching, et du coup c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir comprendre un petit peu d'où ça vient, les mécanismes, etc., qui se cachent derrière le syndrome du sauveur. Donc très souvent déjà, un sauveur, il l'a décidé très souvent inconsciemment, hein, donc c'est pour ça qu'il est entouré de personnes comme ça. Et le truc, en plus, c'est que la plupart du temps, ces personnes-là en souffrent. Donc c'est là où il y a un vrai paradoxe, c'est que très souvent, c'est des personnes qui s'entourent de personnes qui ont besoin d'être sauvées, qui choisissent de vouloir sauver des personnes, qui ont envie et qui ont en fait un besoin, mais un besoin viscéral de sauver certaines personnes, mais qui, en plus de ça, en souffrent et se plaignent d'être dans cette position-là, qui se plaignent d'être dans la position de tout le monde compte sur moi, tout le monde a besoin que je les sauve, tout le monde est en train de me demander de l'aide, etc. Il a tellement besoin de moi, ils peuvent pas faire sans moi, etc. Et vraiment, c'est quelque chose qui les fait souffrir. Alors, qui peut les faire souffrir aussi bien, parce que très souvent, ces personnes peuvent avoir l'impression qu'elles sont toujours là pour tout le monde, mais que personne n'est là pour elles. Elles peuvent aussi avoir l'impression, du coup, d'avoir un énorme poids, une énorme responsabilité, etc. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui souffrent parce qu'en fait, elles ne font même plus la différence entre ce qui leur appartient et ce qui leur appartient pas, c'est-à-dire entre leurs problèmes qui les concernent directement et les problèmes qui concernent uniquement les autres, mais qu'elles se sont finalement appropriées, dans lesquelles elles se noient aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez courant. Et en plus de ça, c'est des personnes généralement qui souffrent un peu de leur posture de sauveur parce que ça les met très souvent dans des relations qui sont compliquées. Des relations amicales compliquées, des relations amoureuses qui sont compliquées parce que l'autre dépend d'elles et qu'en fait, elles souffrent aussi de voir une personne qu'elles aiment souffrir si elles ne parviennent pas à les sauver comme il faut. La vérité, c'est aussi ça, c'est que vous aurez beau vous positionner en tant que sauveur, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. C'est vraiment ça qu'il faut absolument retenir. Y en a sûrement beaucoup parmi vous qui sont en train de m'écouter, qui sont postés comme sauveurs dans une relation. Et je peux vous l'assurer, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Pourquoi ? Exactement pour la même raison que personne ne viendra vous sauver, c'est que la seule personne responsable de ses émotions, c'est la personne en elle-même. Donc, vous aurez beau essayer de tout faire pour sauver une personne, c'est à cette personne de se sauver elle-même. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer, vous ne pouvez pas faire en sorte que cette personne soit plus heureuse, c'est à elle de cultiver son bonheur. Donc, en plus de ça, vous allez constamment être dans la frustration de ne pas forcément réussir à les sauver. Et même quand vous réussissez, par exemple, à faire en sorte que cette personne aille mieux, etc., la satisfaction ne sera jamais totale, puisque votre besoin de sauver les autres va plus loin qu'une seule personne, et vous allez devoir trouver une autre personne à sauver. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi dans des relations amoureuses, par exemple. Il y a des personnes qui se mettent dans des relations où l'autre a besoin d'être sauvé, et une fois que la personne va mieux et qu'elle est, entre guillemets, guérie ou sauvée, on se sent plus vraiment utile, en fait, dans cette relation. On n'a plus vraiment de but, on ne trouve plus vraiment d'intérêt. On a la sensation que l'autre n'a plus tellement besoin de nous, et nous, on n'a plus forcément besoin de lui, donc on va se lasser de ça et se tourner vers une autre relation, plus compliquée à nouveau, plus challengeante à nouveau, dans laquelle on peut de nouveau sauver quelqu'un, dans laquelle on peut de nouveau se positionner en tant que sauveur. Donc c'est un vrai cercle vicieux dont il faut absolument sortir, puisque, encore une fois, c'est pas à vous de sauver les autres, c'est uniquement les personnes en elles-mêmes qui peuvent se sauver elles-mêmes, ok ? Et en plus de ça, à continuellement être dans un rôle de sauveur, vous allez finir par être une victime. Et ça, vraiment, je vais y revenir à la fin. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer justement ce syndrome du sauveur ? Quand on analyse pas mal les croyances des personnes, l'enfance des personnes en tout cas, qui se positionnent comme ça, c'est très souvent, pas tout le temps, hein, mais très souvent, il y a plusieurs types de croyances qui existent, c'est très souvent des personnes qui n'ont pas pu sauver quelqu'un qu'elles aimaient dans le passé, quand elles étaient petites par exemple. Donc ça peut même remonter jusque même à l'âge d'avant 3 ans. Hein. Donc ça peut être par exemple une maman qui fait une dépression et l'enfant n'a pas réussi à faire en sorte que sa maman aille mieux. Voilà, elle voyait sa maman aller mal constamment. Donc c'est une responsabilité qui est acquise inconsciemment en fait. L'enfant ne se dit pas consciemment « je suis responsable du bonheur de ma maman, c'est à moi de faire en sorte que ma maman aille mieux, je dois la sauver, je suis le bébé sauveur, etc. » Non, ça c'est des responsabilités qui sont vraiment inconscientes, d'accord ? Les casseroles qu'on se traîne, la majorité des casseroles qu'on se traîne, on se les traîne depuis avant l'âge de 3 ans ou avant l'âge de 7 ans. Donc cette posture de sauveur qui est liée à « j'ai pas pu sauver quelqu'un quand j'étais petit, donc je dois sauver le reste du monde », c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Donc là, en un podcast, ça va être trop compliqué justement d'analyser ça en profondeur, mais c'est quelque chose qui est très courant, à laquelle vous pouvez réfléchir, mais c'est très souvent le cas. En gros, c'est il y a quelqu'un que j'aimais vraiment, que j'ai pas pu sauver, que j'ai pas réussi à sauver, ou que j'ai vu aller mal, et moi, j'ai pas été la guérison. Donc en gros, je veux rattraper le coup et sauver d'autres personnes. Je le dis de manière très, très vulgaire, mais en gros, c'est ça. En fait, c'est la personne se positionne en tant que maman de tout le monde. Donc je materne tout le monde, je sauve tout le monde, je suis le sauveur. Pourquoi ? Parce que je suis coupable de pas avoir aidé cette personne avant, de pas avoir sauvé cette personne-là. Donc je veux sauver tout le reste, tout le monde, pour pouvoir me racheter, pour pouvoir ôter cette culpabilité et pour pouvoir réécrire le passé, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant comme croyance, qui est complètement erronée. Hein. La façon d'en sortir, c'est pas juste avec un podcast qu'on peut sortir de ce type de croyance-là, et il faut remonter loin. Mais voilà, en tout cas, c'est une des explications aussi. Il y a Une autre explication au fait de se positionner en tant que sauveur, c'est aussi quand on a un besoin d'importance, c'est-à-dire qu'on se positionne en tant que sauveur quand on a besoin de savoir que les autres ont besoin de nous. C'est-à-dire, ça c'est vraiment typiquement le besoin d'importance, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on étudie dans RISE, c'est vraiment un des besoins fondamentaux de l'homme, un des besoins primaires, c'est en gros j'ai besoin d'être important, j'ai besoin d'être unique, j'ai besoin que les autres aient besoin de moi, j'ai besoin en fait d'être nécessaire aux autres. Et pour être nécessaire aux autres, comment est-ce que je peux être nécessaire aux autres? En faisant en sorte d'être leur sauveur, en faisant en sorte d'être la personne qui va les guérir et qui va les sauver. Donc à partir du moment où les autres ont besoin de moi, je suis nécessaire, je suis utile, et du coup ça comble mon besoin d'importance. Je suis quelqu'un d'utile, je suis quelqu'un d'important pour eux. Voilà pourquoi je me positionne en tant que sauveur. Et ça c'est de manière très inconsciente la plupart du temps. Beaucoup de personnes se positionnent en tant que sauveur pour satisfaire leur besoin d'importance, pour satisfaire leur besoin d'être utile et d'être nécessaire aux personnes qu'ils aiment. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie d'aborder ici, c'est que vous n'avez pas besoin de sauver les autres pour que les autres vous aiment, mais surtout, vous n'avez pas besoin de ça pour que les autres aient besoin de vous. En vous positionnant en tant que sauveur, vous en souffrez. Peut-être que ça comble votre besoin d'importance, mais il y a plein d'autres façons de combler votre besoin d'importance et d'être important aux yeux des autres sans sauver ces personnes-là. Vous pouvez être important aux yeux des autres en étant tout à fait unique, en étant vous-même, en comblant des besoins d'autres façons, en ayant des missions qui sont importantes et qui vont aider un grand nombre de personnes sans forcément être le sauveur et sans forcément en souffrir. Voilà. Donc encore une fois, c'est un très lourd sujet qui est difficile à aborder en un seul podcast, mais c'est vraiment une notion qui est extrêmement importante. Et ensuite, une autre explication aussi qui peut exister quand on se positionne en tant que sauveur, c'est non pas pour le besoin d'être important aux yeux des autres ou le besoin d'être nécessaire à l'autre, c'est le besoin d'être aimé tout simplement en fait. Et là, il y a une énorme majorité de personnes qui se situent vraiment là-dedans. C'est en gros, je sauve l'autre parce que je veux que l'autre m'aime en fait. Donc, je me plie à toutes ses volontés et je veux absolument le sauver. Et on est persuadé quand on le fait que c'est pour l'autre qu'on le fait, que c'est parce qu'on aime l'autre. C'est comme les personnes qui se jettent à corps perdu et qui se sacrifient pour aider l'autre. Mais sachez que si vous faites ça, c'est pas pour l'autre. Vous faites ça parce que vous voulez que l'autre vous aime. Donc les personnes qui sont tout le temps en train de se sacrifier pour plaire à tout le monde, pour être aimées par tout le monde, encore une fois, ils sont pas en train de se sacrifier parce qu'ils aiment les autres, ils sont en train de se sacrifier pour être aimés. D'accord ? Et la position du sauveur, c'est exactement la même chose. C'est vraiment, je veux sauver tout le monde parce que je veux être sûre que les autres m'aiment. Et je veux être sûre que les gens pensent que je suis quelqu'un de bien. Et je veux être sûre d'avoir de l'importance. Et je veux être sûre d'être quelqu'un qui fait du bien aux autres. Et je veux être sûre qu'on me donne de l'amour en retour. D'accord ? Donc c'est aussi quelque chose qui peut faire souffrir parce que c'est pas parce que vous sauvez que vous allez forcément être aimé. Et là, vous êtes du coup non pas dans de l'amour conditionnel, mais dans de l'amour de troc. Ça, je vous invite vraiment à aller écouter les différents types d'amour, le podcast que j'avais fait dessus. On est vraiment dans un amour de troc, en fait, en attente de « je te sauve, donc tu me rends ceci ». Et c'est quelque chose qui va vous faire vivre un vrai mal-être. Et enfin, la dernière raison qui existe au fait de se positionner tout le temps dans un rôle de sauveur, du moins celle que je vais aborder aujourd'hui, même s'il y en a d'autres, j'insiste, il y a d'autres croyances qui sont liées à ça aussi, mais ça, c'est vraiment les principales et du moins celles que moi, j'ai vraiment pu observer. C'est « je sauve les autres pour éviter de penser à mon propre caca ». C'est vraiment ça. C'est « je sauve les autres et je m'occupe du bazar des autres pour éviter de penser au mien, pour éviter de me retrouver en mode pause et mince, je suis face à mes propres démons et mince, la personne que je dois sauver, c'est moi ». C'est pour ça qu'on dit tout le temps « il vaut mieux balayer devant sa porte que devant celle du voisin » ou « il vaut mieux commencer par s'occuper de son propre caca avant de s'occuper de celui des autres ». C'est vraiment ça. C'est qu'en général, quand on refuse de voir les choses à propos de nous, donc les douleurs, les souffrances, les vieux démons, etc., on va constamment aller se jeter à corps perdu dans s'occuper de ce qui se passe chez les autres. Donc je vais sauver quelqu'un d'autre tout le temps, je vais sauver telle personne, m'occuper de cette telle personne, guérir telle personne, etc. Comme ça, ça m'évite de me retrouver face à moi-même, ça m'évite de me retrouver face à mes démons, ça m'évite de me retrouver en mode pause et mince, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée de constater la vérité, je suis obligée de voir ce qu'il y a sous mes yeux, qui est que moi aussi j'ai des propres démons, que moi j'ai besoin de me sauver moi-même, que moi j'ai des batailles à mener et que moi-même j'ai besoin d'être guérie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement régulier. Donc à un moment donné, quand vous êtes dans une position de sauveur et que vous le sentez de toute manière, il faut se poser la question de « ok, attends, si je fais ça, est-ce que c'est pour plutôt fuir moi, mes démons? Est-ce que c'est parce qu'en fait, je suis pas en train de me sauver moi-même et je veux éviter de me retrouver face à la vérité? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'être aimée? Est-ce que j'ai besoin d'être importante? Est-ce que c'est parce que je suis en train de fuir une culpabilité? » Voilà, il faut vraiment essayer de comprendre l'origine, d'accord? Ensuite, sachez que quand on se positionne en tant que sauveur, comme je vous le disais au tout début du podcast, déjà, vous allez souffrir. C'est quelque chose, encore une fois, qui comblera jamais pleinement vos besoins. Et en plus de ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous sauvez quelqu'un, ou du moins vous essayez de sauver quelqu'un, que c'est la bonne solution pour vous. Ce n'est pas aider quelqu'un que de vouloir le sauver. Ce n'est pas aider quelqu'un que de vouloir lui mettre les solutions toutes prêtes dans la bouche et d'essayer de faire les choses à sa place, absolument pas. Pourquoi ? Encore une fois, parce que la seule personne responsable de ses sentiments, c'est la personne en elle-même. Donc, si vous essayez de sauver quelqu'un, vous ne lui faites pas apprendre le chemin. Cette personne, elle doit apprendre pour que le changement soit réel. Cette personne, elle doit vouloir aller bien pour réellement aller bien. Elle doit faire le changement et tout le processus elle-même pour vraiment que ça fonctionne. Donc, plus vous sauvez, plus en réalité vous êtes en train de couper les jambes de la personne, c'est-à-dire vous êtes en train de la rendre dépendante de vous, vous lui coupez l'indépendance et vous n'êtes absolument pas en train de l'aider à long terme. Parfois, c'est un phénomène qui est conscient. Il y a des mamans notamment, par exemple, qui font ça avec leurs enfants, qui sont constamment en mode « maman sauveuse », maman poule, maman poule, maman poule, parce que l'intérêt est ici que les enfants aussi perdent complètement de leur autonomie, soient constamment dépendants de la maman, et du coup ne partent jamais, et comme ça la maman est assurée qu'elle aura toujours quelqu'un qui l'aimera avec elle et qu'elle se sentira jamais seule. Et finalement, en fait, en se positionnant en tant que sauveuse par rapport à ses enfants, elle positionne ses enfants en tant que victime, et ensuite elle se positionnera elle en tant que victime par rapport à ses enfants. Et ses enfants sauveurs par rapport à elle. Donc, on y reviendra ensuite à la fin du podcast dans le triangle de Karpman. Mais c'est vraiment ça. Il faut bien se dire que quand vous voulez sauver quelqu'un, en fait, vous n'êtes absolument pas en train de l'aider. Donc ça, c'est la première chose vraiment à faire. C'est vraiment pas aider quelqu'un que d'essayer de le sauver constamment. Vous ne lui apprenez pas. Cette personne ne saura pas être indépendante, ne saura pas faire un changement définitif, etc. En plus de ça, c'est pas parce que vous, votre manière de sauver la personne, vous pensez être bonne que c'est la bonne. Parce que vous ne partagez pas le même système de valeurs que la personne que vous voulez sauver. Vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas les mêmes interprétations du monde. Donc cette personne-là, elle n'a pas non plus les mêmes besoins que vous. C'est pas parce que vous essayez de sauver quelqu'un en pensant que c'est la bonne méthode, que cette personne, pour elle, c'est la bonne méthode. Donc non, encore une fois, se positionner en tant que sauveur pour quelqu'un, ce n'est pas l'aider et parfois c'est même empirer les choses. Et enfin, il y a deux choses justement dont je voulais vous parler, c'est notamment quelque chose qu'on observe dans la roue du consentement. Quand on se positionne en tant que sauveur par rapport à quelqu'un, l'autre en face, quand on aide quelqu'un, quand on donne quelqu'un, l'autre en face reçoit l'aide. Quand on se positionne en tant que sauveur, ça veut dire que vraiment c'est « je me sacrifie à tout prix pour te sauver, je te donne sans compter, je me sacrifie », on n'est plus du tout en train de positionner l'autre en face comme quelqu'un qui reçoit. On est en train de positionner l'autre en face comme un bourreau. C'est-à-dire, je suis ton serviteur, je suis ton sauveur, et en réalité, en faisant ça, je te rends bourreau, je te rends profiteur, je te rends maître de l'esclave. Il faut bien se dire ça à chaque fois, et ça c'est très intéressant justement, dans la roue des consentements, c'est que peu importe l'attitude que vous avez, il faut bien vous dire que vous allez du coup, en ayant cette attitude-là, placez la personne en face dans une attitude aussi, dans une position opposée qui sera aussi désagréable. Si vous vous positionnez en tant que sauveur, vous positionnez l'autre en tant que tortionnaire. Donc ça, il faut faire très attention, parce que votre comportement, dans l'interaction que vous avez avec l'autre, place l'autre aussi dans une position dans laquelle il n'a pas forcément envie d'être. Donc c'est ce qui se passe très souvent, vous le noterez dans les relations justement, où quand vous êtes sauvé vous, quand quelqu'un veut absolument vous sauver, il peut y avoir comme une espèce de culpabilité que vous commencez à ressentir par rapport à l'autre, comme si vous aviez l'impression d'abuser de l'autre, comme si vous aviez l'impression que l'autre était votre esclave, que c'était de votre faute si son estime de lui baissait complètement, etc. Et en fait, vous êtes simplement en train d'être positionné en tant que profiteur, maître de l'esclave, voire tortionnaire. Et ça, c'est justement parce que l'autre s'est positionné en tant que sauveur pour vous. Et vice-versa, si vous vous positionnez sauveur, faites attention à la manière dont vous positionnez l'autre, puisque oui, ça marche tout simplement par opposition. Voilà. Donc, moi, ensuite, ce que j'avais vraiment envie de vous expliquer, c'est que justement, cette position de sauveur, elle est super intéressante à comprendre grâce au triangle de Karpman. Donc, le triangle de Steve Karpman, c'est un triangle qui est très intéressant, qu'on analyse beaucoup, justement, en analyse transactionnelle, qui est, en gros, l'étude de tout ce qui est relations, communication, etc. Et en fait, ce triangle, c'est simplement les différents rôles qu'on va adopter dans nos relations. Donc, à chaque pointe, en fait, il y a un rôle particulier. Sur la première pointe, il y a le rôle de victime, d'accord ? Donc, c'est la personne qui se plaint, qui subit, qui est victime. Sur la deuxième pointe, on va trouver le rôle de sauveur. Donc là, c'est justement la personne qui fait tout pour sauver la victime, ok ? Entre guillemets. Et sur l'autre pointe, on va trouver la notion de bourreau. D'accord ? Donc c'est le bourreau, je pense que là c'est très clair et qu'on ne peut pas donner d'autres termes. C'est vraiment la personne qui fait du mal. Okay ? Il faut bien vous dire que peu importe les domaines de vie, vous serez toujours positionné sur une pointe du triangle et que ça va varier en fonction des domaines de vie. Dans n'importe quel domaine de vie, vous allez avoir une préférence. Est-ce que vous êtes plutôt positionné en bourreau, plutôt positionné en victime, plutôt positionné en sauveur ? On a toujours, toujours, toujours un domaine de prédilection, en tout cas un rôle de prédilection. Et il faut bien aussi comprendre qu'en fonction du rôle où vous vous placez, ça va coulisser. Vous allez vous-même coulisser en fait autour du triangle, ok ? Donc si par exemple vous êtes positionné en tant que sauveur par rapport à quelqu'un, en face de vous, soit vous êtes en train de considérer que la personne est une victime, soit vous êtes en train de considérer que l'autre est un bourreau. Quand vous êtes dans un rôle de sauveur, en général, c'est que vous êtes persuadé que la personne est en tant que est une victime. Donc vous allez l'aider, ok ? Et encore une fois, rappelez-vous que vous allez forcément faire coulisser la relation. Vous allez forcément incarner ces trois points à un moment donné ou à un autre. C'est vraiment le jeu des relations. Le triangle de Karpman, c'est vraiment ça. C'est une interprétation des jeux communicationnels qui se passent dans différentes relations, tout simplement. Donc, bien que vous soyez positionné en sauveur, vous allez tellement sauver la victime que vous allez finir par être le bourreau de la victime. Ce qui peut se passer aussi, c'est que vous allez tellement vouloir sauver la victime que vous allez vous-même devenir la victime, et la victime en question va devenir le bourreau. Et pourquoi pas, le bourreau va devenir le sauveur, etc. Donc vous allez constamment coulisser autour de ce triangle, et ce n'est pas parce que vous vous pensez sauveur qu'en réalité vous êtes réellement sauveur, peut-être que vous finirez vous-même par être un bourreau, parce que l'autre n'a pas besoin ni envie d'être aidé, ni d'être sauvé, ou peut-être que vous allez finir par vous positionner en victime parce que vous souffrez de votre rôle-là, et vous considérez que l'autre était un bourreau, alors que vous l'avez placé en tant que victime au début. Donc je vous remets une image justement du triangle de Karpman dans les notes du podcast. C'est vraiment très intéressant à observer. Ce qu'il faut en fait, c'est se poser constamment la question, ok, ici, qui est la victime ? Qui se plaint et qui demanderait à être aidé ? Donc qui est la réelle victime ? Qui est la personne qui fait mal ? Qui est la personne qui brutalise ? Qui est la personne qui fait du mal ? Qui est le bourreau finalement ? Et ensuite, il faut se demander, qui est la personne qui vient en aide ? Qui est la personne qui veut sacrifier, qui veut donner de l'aide à tout prix ? Qui est réellement le sauveur ? Qui aide ? Ces jeux communicationnels vont être constamment en mouvement, et en fonction des domaines de vie, encore une fois, vous allez vraiment coulisser autour du triangle. Si je vous donne un exemple de jeu communicationnel autour du triangle de Karpman, il y a des personnes, par exemple, avec les podcasts, ici, qui adore écouter ces podcasts, qui vraiment adore écouter ces podcasts, je le sais. Bon, j'espère que la majorité d'entre vous, voire 100% d'entre vous, adore écouter ces podcasts, mais c'est surtout que je sais qu'il y en a qui sont vraiment fans, et il y a une petite partie, une infime partie de cette audience qui m'a positionnée en tant que sauveur. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, en gros, Chloé, c'est la solution à tous mes problèmes. C'est la nana où il faut que j'écoute ses podcasts, elle va résoudre tous mes problèmes dans ma vie parce que moi je suis une victime, donc elle ça va être mon sauveur. Je dois lui écrire à elle, c'est elle qui doit me sauver, c'est elle qui doit me faire ça, je vais lui demander des conseils. Et des fois vraiment, hein, j'ai des messages sur des conseils qui sont hyper hyper perso, et comme vous le savez, enfin moi je peux pas répondre clairement aux messages individuels, c'est pour ça que je fais du podcast, pour pouvoir toucher un grand nombre de personnes, donc je ne fais pas de conseils individuels. Et donc ces personnes-là en fait se positionnent elles en tant que victime et m'ont positionné en tant que sauveur. Je n'ai pas envie d'être le sauveur. Je ne suis pas le sauveur. Moi, je suis quelqu'un qui est en train de vous aider, mais je n'ai pas envie d'être le sauveur. N'empêche que dans cette relation-là, je suis positionnée en tant que sauveur. Et j'y peux rien, c'est comme ça. Ces personnes-là m'écrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour être sauvées. Elles m'ont positionnée en tant que sauveur, donc considèrent que c'est normal que je les sauve, jusqu'à, en fait, devenir même agressive si je ne réponds pas. Agressive, insulte si je réponds pas, vraiment, enfin, il y a de l'agressivité parfois parce que je réponds pas à leurs problèmes par rapport à des sujets, relations amoureuses, etc., machin, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe finalement ici? Ces personnes qui étaient victimes et qui me positionnaient en tant que sauveur sont en train de devenir finalement des bourreaux et me placent en tant que victime. Voilà ce que c'est un jeu communicationnel, c'est que vous pensez commencer à une pointe et que l'autre en est à une autre, et en réalité, vous êtes en train de faire coulisser ce triangle de Karpman constamment, et faites attention parce que vous allez devenir la victime, ou le bourreau, ou le sauveur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc observez ça, voilà, il y a plein d'autres exemples comme ça de triangle de Karpman à analyser, c'est vraiment très intéressant à faire. En tout cas, il faut vraiment se poser les bonnes questions, quelles que soient vos relations, quels que soient vos domaines de vie. Donc pour le petit exercice du jour justement, moi je vous invite vraiment à vous poser ces trois questions-là à chaque fois. Qui aide réellement ? Qui est vraiment le sauveur dedans ? Qui est la personne qui fait du mal ici et qui est la personne qui demande à être aidée et qui se plaint. Voilà, posez-vous vraiment ces questions-là en fonction de vos domaines de vie. Donc, les domaines de vie, ça peut être aussi bien au niveau du sport, aussi bien au niveau de l'amour, aussi bien au niveau de l'amitié, au niveau de la vie familiale. En tout cas, ça concernera toujours des relations. Voilà pour ça. J'espère que ce podcast vous a plu. On pourra encore en parler pendant des heures, mais du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire assez condensé avec simplement mon expérience pour que ce soit quand même assez personnalisé comme sujet. Évidemment, pour les personnes qui ont envie d'aller encore plus loin, c'est un exercice dans lequel on va vraiment pousser dans l'exercice de la semaine. Vous savez que vous pouvez rejoindre la Bloom Academy, justement, on va vraiment pousser l'exercice dedans. Donc la Bloom Academy, c'est une académie de dev perso dans laquelle vous avez chaque semaine un gros approfondissement du podcast avec un live d'une mindset coach, des exercices de dev perso approfondis et justement, cette semaine, ça va être un super exercice d'approfondissement. J'espère qu'il vous aidera beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas. Et les personnes qui font partie de l'académie, vous avez toujours le forum sous lequel vous pouvez poser vos questions. On se retrouvera en live très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.